Je m'appelle Émilie et je suis créatrice sonore. C'est vraiment partie de l'enfance, le goût du son, que j'enregistrais des trucs dehors, que voilà, on avait des magnétos à la maison et que j'aimais beaucoup faire ça. Et du coup, je crois que comme on écoutait aussi beaucoup la radio, voilà, il y a tout ça qui a nourri un truc dès le départ. Après, j'y suis pas venue tout de suite, j'ai pas forcément pensé en faire mon métier consciemment. J'aimais beaucoup l'école, beaucoup la littérature, beaucoup raconter des histoires, beaucoup faire des spectacles avec mes copines, mes cousines, faire des fausses émissions de radio aussi. Et je pense que je me suis pas autorisée tout de suite à en rêver, faire mon métier. Mais en fait, ça s'est plutôt bien goupillé parce que j'ai fait des études de lettres. Donc j'ai été habiter 2 ans en Espagne. Là, mes copains m'avaient offert un petit enregistreur. À l'époque, c'était encore un dictaphone. Du coup, à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à enregistrer des trucs, mais dans une forme d'inconscience totale. En tout cas, qu'on pouvait vraiment faire des choses. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire quand j'ai commencé à travailler avec des metteurs en scène en tant que dramaturge et assistante à la mise en scène. Ça a été mes premiers boulots. Donc j'ai fait de la technique de façon un peu automatique comme ça, en filant des coups de main au plateau. Bah alors j'ai fini par faire une formation parce que du coup là j'ai fait ce travail d'assistante dramaturge auprès d'une metteur en scène qui s'appelle Anne-Laure Liégeois, un autre qui s'appelle Christophe Huismont, qui utilisait beaucoup le son dans ses spectacles. Et voilà, je m'y suis mise comme ça petit à petit. J'ai fini par faire une formation d'un an à l'INA. Donc là j'ai une formation technique, mais assez de base, tu vois, je suis pas un gestion, mais je suis capable de mettre en place un système simple. Et puis du coup j'ai appris la prise de son là quand même. Et parallèlement à ça, un stage de documentaire radiophonique avec Kay Mortley, qui est une documentariste australienne, qui a été vraiment le truc où je me suis dit derrière qu'il fallait que je m'autorise à faire ça, parce que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Donc voilà la formation technique, et quelques années après, au conservatoire de Pantin avec Christine Groux, qui est une compositrice électroacoustique. J'ai fait une formation de 3 ans en composition électroacoustique. Donc au final, je me suis formée de façon plutôt large parce que c'est à la fois technique et musicale et artistique. Mais tout ça en articulant ça avec une activité professionnelle qui fait que j'ai aussi continué à apprendre sur le tas. Que là, je fais du son pour la marionnette beaucoup depuis 2-3 ans, mais que c'est pas quelque chose pour lequel forcément j'ai été formée, mais voilà, j'apprends en expérimentant aussi. Donc c'est vraiment devenu mon métier. Je fais principalement du son, uniquement du son, depuis une petite dizaine d'années maintenant. Voilà, donc c'est chouette. Ça, c'est dans des contextes très différents, que ce soit pour le spectacle vivant, la radio, des collectifs comme Jeff Clack, où on édite à chaque numéro un CD, donc avec des créations sonores originales, qu'on fait de façon individuelle ou collective. Ça peut être des performances radio, ça peut être des projets toutes seules, comme le projet de concert pour bébé dont je te parlais tout à l'heure, qui s'appelle Prosodie, voilà. Je me mouche. J'ai acheté tout, j'ai fait tout le gloubi d'un coup là. Et en fait, s'il y a une rencontre déterminante, c'est quelqu'un que j'ai fini par rencontrer après, mais c'est plus la découverte de son travail. Pendant ce stage-là, avec Kay Mortley, le soir, on faisait des soirées d'écoute. Et là, ils ont passé une pièce de Dominique Petitbon. Je ne sais pas si tu connais, qui est un artiste sonore qui fait des pièces où il mélange la voix et du son et de la musique et qui les installe souvent dans l'espace. Pas forcément l'espace public, c'est plus des espaces de galerie, mais qui travaille vraiment. Il y a une présence dans ces pièces qui est hyper impressionnante, quelqu'un qui édite des disques aussi. Et ça m'a. un monsieur qui a été hyper important pour moi, c'est Phil Minton, qui est un improvisateur, un chanteur, vocaliste, avec qui j'ai fait un stage de chant, qui m'a retourné. Enfin, c'était lui, il a été hyper important aussi. En fait, tu alternes un peu les périodes où tu travailles seul chez toi, enfin en tout cas pour mon cas, ou les périodes de travail collectif. Si tu travailles sur un spectacle, par exemple, bah, là récemment, vient de finir la création de Buffle, qui est un texte d'un catalan qui s'appelle Pau Miro, avec la compagnie Arnica côté de Lyon, là. Et bah, là, on vient de passer 3 semaines à faire 9h, 1h du matin. Là, mon boulot, il était d'être en répétition le matin, de préparer mes bandes son, de les essayer l'après-midi, le soir au filage. Et voilà, là, c'est très concret. T'es dans une aventure collective qui fait que voilà, t'es souvent en dehors de chez toi, enfermé dans des théâtres toute la journée. Mais il y a un truc que j'adore là-dedans, mais c'est assez particulier quand même. Et puis, tu peux aussi te retrouver chez toi. Il est 9h du matin, et puis t'allumes tes enceintes et bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Sur quoi je travaille? Tiens, c'est rigolo là, il y a le souffleur de feuilles avec du vent. Tiens, je vais faire une prise de son en ouvrant la fenêtre du balcon. Et puis, puis ça me fait penser à telle prise de son qu'il faudrait que je réécoute. Et puis les projets, ils sont pour eux les uns par rapport aux autres, je trouve souvent en fait. Avec une amie, on est en train de préparer une performance radiophonique sur la notion de se faire entendre. Et en parallèle, je veux remettre en route un projet de documentaire. Et bien évidemment, les deux n'arrêtent pas de se télescoper. Et quelque chose que je cherche pour un projet va me faire essayer de travailler un son qui va finalement servir à l'autre. Et voilà, ça s'entre-nourrit comme ça, j'ai l'impression. Eh bien, ça évolue dans le sens où, depuis 2-3 ans, je commence à m'ouvrir un peu à tout ce qui est improvisation. Et ça, c'est pas mal, parce que ça me déplace beaucoup. Tu fais de la création sonore pour son fixé, sur bande, par exemple. Tu es quand même dans une forme d'écriture très qui peut être qui est gravée, qui est figée, quoi. L'année dernière, j'avais un projet avec de trio qui s'appelait Beck, avec une pianiste, Betty Ouvette, et une plasticienne, Karine Sanseri, où on était vraiment sur un truc d'improvisation à trois. Et alors ça, c'était un truc totalement nouveau et très différent de ce que je faisais d'habitude, par exemple, qui me mettait aussi dans des formes de fragilité, de déséquilibre, et c'est hyper intéressant, quoi. C'est pas le plus simple, mais c'est hyper intéressant. Ah, franchement, en ce moment, mais parce que je viens de faire un projet sur lequel j'ai dû réécouter des prises de son que j'avais fait en Argentine et au Chili, et ben je rêverais d'avoir un an devant moi, plein de sous, pour pouvoir faire toute la route 66. Non, pas la route 66, je dis n'importe quoi. Cuarenta, on dit, en Amérique du Sud, mais je sais pas, Amérique du Nord, comment elle s'appelle. En tout cas, ce qui va de Vancouver au Cap Horn. Et alors ça, tu vois, par exemple, parce que le son, ça m'intéresse aussi pour tout ce que ça apporte de... Pour moi, c'est... Même la narration sonore, c'est aussi très souvent lié. C'est un itinéraire, c'est un chemin, que ce soit concret, comme mental, comme... Pour moi, c'est aussi très lié à la mémoire et tous ces trucs-là. Là, j'adorerais pouvoir faire ce voyage-là et faire comme une espèce de long plan séquence, je sais pas. J'ai pas d'idée de forme, là, mais... Ça, c'est marrant, ouais. Ça serait ça, là, le rêve du moment.